pouvoir cet après-midi et méditer sur la puissance de la mort de Jésus. Puissance de la mort de Jésus. Et nous aurons quelques petites lectures à faire préalablement. D'abord Matthieu 27, 57. Matthieu 27, 57 à 60. Nous allons être obligés de lire dans les quatre évangiles. Parce que de l'un à l'autre, nous avons des détails, des précisions qui se cumulent. Alors, chapitre donc 27 de Matthieu, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi un disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Nous lirons maintenant dans le second évangile, Marc, au chapitre 15 et au verset 42. Chapitre 15, verset 42 jusqu'au verset 46 inclus. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate. Notons bien ces détails. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. Nous irons ensuite au troisième évangile, celui de Luc, au chapitre 23 et au verset 50. 23, verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Je fais une petite parenthèse, qui n'avait point participé aux actes, à la décision et aux actes des autres, dans le Sanhédrin, bien entendu, il s'agit là du procès fait à Jésus. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Nous arrivons enfin au quatrième évangile, celui de Jean. Et nous prenons au chapitre 19, le verset 38. Chapitre 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Alors, nous avons beaucoup dans ces quatre récits, il est partout question de ce Joseph d'Arimathée. D'Arimathée, cela veut dire qu'il était de Ramathaïm, et qui est était une localité située sur le territoire d'Éphraïm. Et c'était la patrie de Samuel, le prophète Samuel. Joseph, donc, qui est appelé Joseph d'Arimathée, était un homme riche. Il était aussi un conseiller de distinction. Et enfin, pour compléter ce portrait, il était bon et juste. Voilà donc un homme intéressant, riche, conseiller de distinction, bon et juste. Et alors, nous ajoutons à cela, disciple de Jésus en secret par crainte des Juifs. Il était donc disciple de Jésus en secret. Il attendait le royaume de Dieu, avons-nous lu aussi. Il attendait le royaume de Dieu. Donc il était disciple en secret, mais il savait exactement ce à quoi le menait sa position de disciple. Il attendait le royaume de Dieu. Il aurait pu être disciple simplement pour écouter les paroles de Jésus. Et ses paroles, naturellement, faisaient du bien, ses paroles pouvaient occasionner un certain bonheur intérieur, mais il n'était pas là seulement pour ça, et véritablement, il attendait le royaume de Dieu. Donc, il avait l'espérance de beaucoup de Juifs pieux, qui attendait le royaume de Dieu, mais cette espérance, il la rattachait à la personne de Jésus-Christ. C'était donc un magistrat de l'époque, il appartenait au Sanhédrin, puisqu'il n'avait pas pris part à la décision des autres, il était avec les autres, mais non, il va même s'absenter. Magistrat au cœur honnête, il pressent très bien la condamnation de Jésus, alors il s'abstient d'assister aux délibérations des chefs, délibérations du Sanhédrin. Voilà, qui est tout à fait en son honneur. Et nous avons lu dans Marc qu'il osa, demander à Pilate le corps de Jésus. Il fallait en effet d'une certaine témérité, peut-être, en allant vers Pilate pour demander le corps. Pilate aurait pu très bien mal prendre cette demande, la considérer comme quelque chose qui l'atteignait dans son autorité, par exemple. Il osa demander à Pilate le corps de Jésus. Et alors, pendant la vie de Jésus, Joseph d'Arimathée était retenu par la peur des Juifs, c'est-à-dire, essentiellement, par la peur de se compromettre en son milieu, par la peur de briser sa position sociale. Mais, sitôt la crucifixion faite, eh bien, voici qu'il franchit l'obstacle de la peur. Il franchit l'obstacle de la peur, il osa. Il osa faire une démarche auprès de Pilate qui l'engageait, qui le signalait ouvertement comme un ami de Jésus, de celui qu'on venait de mettre à mort, de celui qu'on venait de mettre à mort sous l'inculpation de blasphémateur. Voyez-vous, il osa donc franchir l'obstacle de la peur. Et ce n'était pas un petit obstacle. Comment le Sanhédrin avait décrété la mort du Seigneur. Pilate, lui, avait fourni l'autorité et les moyens de la mise à mort. Et puis voici que Joseph d'Arimathée se démasque comme en tant qu'ami de celui qu'on venait de condamner de mettre à mort. C'était pas quelque chose de très facile. Et puis n'oublions pas qu'il y avait dans le Sanhédrin ce fameux homme, ce Saul de Tarse, qui était, lui, méchant comme un loup à l'égard de Jésus et des disciples de Jésus. Jésus lui dira « Pourquoi me persécutes-tu ? » Cette fois, on va donc savoir que Joseph d'Arimathée est un disciple et qu'il attendait le royaume de Dieu. Il avait donc placé toute son espérance, je dis bien la forme de l'espérance, l'objet de l'espérance était présent dans en Israël, dans la doctrine, dans la doctrine d'Israël. Oui, mais lui, c'est en Jésus qu'il met son espérance. Il place son espérance en Jésus. Il avait donc vu en lui ce que les scribes, les pharisiens et autres gens n'avaient pas vu. Il avait vu en lui, s'il plaçait son espérance en Jésus, il était disciple, il avait vu en lui l'envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. Il avait donc foi en Jésus. Or, à la crucifixion, voici la crucifixion qui intervient. Joseph d'Arimathée n'a pas voulu participer à la décision du Sanhédrin. La crucifixion se fait, si bien que l'espérance du royaume de Dieu que Joseph d'Arimathée avait mise en la personne de Jésus, cette espérance meurt. Cette espérance vient de mourir. Logiquement, normalement, dans la pensée de cet homme, eh bien, il aurait dû y avoir ceci, tiens, j'espérais. Comme le disent d'ailleurs les deux disciples d'Emmaüs, nous espérions que ce serait par lui, Jésus, que vraiment toutes les choses attendues s'opéreraient. Mais voici, on vient de le mettre à mort. On vient de le faire mourir. Et Joseph d'Arimathée aurait pu être dans cette même pensée, comme les disciples d'Emmaüs, et puis dire, j'ai mis mon espérance dans cet homme. Voilà, il vient de mourir. Alors, l'espérance, donc, du royaume de Dieu vient de mourir avec celui en qui elle était gagée. Mais, cependant, Joseph d'Arimathée, et aidé d'ailleurs, nous l'avons vu dans l'évangile de Jean, aidé de Nicodème, va descendre le corps de la croix Et vous savez, pour un conseiller de distinction, c'était pas tout à fait le travail qui lui convenait. C'était pas un travail tout à fait en rapport avec sa condition. Alors il descend le corps de la croix, l'enveloppe d'un linceul blanc, et notons bien que les quatre évangiles font mention de la mise au sépulcre par Joseph d'Arimathée, Jean ajoutant la présence aussi de Nicodème. Mais les quatre évangiles font mention de cette mise au sépulcre par Joseph d'Arimathée. Pourquoi ? C'est quelque chose quand même de remarquable. Il y a d'autres événements importants qui ne figurent pas dans les quatre évangiles. Pourquoi donc cela ? Eh bien, parce que, justement, c'est un événement remarquable, un événement qui a quelque chose à nous faire comprendre. Alors, était-ce de la part de Joseph d'Arimathée, était-ce l'accomplissement d'un pieux devoir ? Était-ce une marque d'amitié ou de regret ? Non pas. Ça n'était pas cela. Il pouvait y avoir un peu de cela, mais ça n'était pas le mobile principal. L'espérance de Joseph d'Arimathée, en quelque sorte, s'est transformée. Son espérance s'est transformée. Elle était donc solidement ancrée dans son cœur. Il attendait le royaume de Dieu en relation avec Jésus, en relation avec le crucifié, et la mort de Jésus ne l'arrête pas, ne fait pas tomber cette espérance. Au contraire, la mort de Jésus produit en lui un fruit qui n'était pas apparu pendant la vie du Seigneur. Pendant la vie du Seigneur, il était disciple en secret. Il cédait, il était impressionné par l'attitude des Juifs et il ne voulait pas se placer sous leur jugement et leur réprobation. Il avait donc peur des Juifs. Mais la mort de Jésus le rend audacieux, il ose. Donc elle a produit en lui un fruit qui n'était pas apparu alors que le Seigneur était vivant. Son espérance se trouvait donc libérée. L'espérance de Joseph d'Arimathée était libérée de toute attente immédiate. Vous savez que c'était la pensée des Juifs en général. Ils attendaient le rétablissement du royaume. Même les apôtres vont le dire au Seigneur Jésus: « Seigneur, quand le royaume sera-t-il rétabli ?» Le royaume d'Israël, c'était, à leur vue, le royaume de Dieu. Vraiment, voilà, il y avait la main romaine dessus, n'est-ce pas ? Mais c'était le royaume de Dieu. Les apôtres le demandent à Jésus: « Quand viendra le temps du rétablissement du royaume de Dieu ?» Ce n'est pas faux de dire que le royaume d'Israël était la première ou une préfiguration, si vous voulez, du royaume de Dieu. Ce n'est pas faux. Le royaume de Dieu a pour point de départ dans l'implantation des successives des différentes phases du dessein de Dieu, a pour départ le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, avec David pour roi et les héritiers de David, ce royaume d'Israël est la première implantation du royaume de Dieu. Il est là pour préparer le royaume de Dieu. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que le Seigneur Jésus règnera sur cette terre d'Israël. ce royaume, le royaume, le territoire d'Israël, la superficie de la nation d'Israël sera élargie. Ce sera le grand Israël dont nous avons la notion dans les Écritures. Donc l'espérance de Joseph d'Arimathée se trouve libérée de toute attente immédiate, contrairement au sentiment général chez les Juifs. Et cette espérance repose maintenant sur les paroles de Jésus. Voilà, l'espérance repose sur les paroles, et non pas sur le sentiment général, non pas sur la pensée qui s'était imposée dans le milieu israélien. Non, elle repose sur les paroles de Jésus, que le conseiller Joseph connaissait très bien maintenant. Il était disciple, il connaissait les paroles du Seigneur. Et ces paroles, donc, s'illuminaient d'une lumière éternelle. Alors, nous relevons des faits surprenants. Quand nous examinons ces circonstances, nous avons sujet d'être tout de même surpris. Eh bien, soyons surpris. Pendant la vie de Jésus, Joseph d'Arimathée, n'osant pas confesser sa foi pour ménager sa position sociale, était en somme un mauvais disciple. Un disciple en secret, c'est pas un bon disciple, ça. C'est un mauvais disciple. Mais Jésus étant mort, voici que les vrais disciples, ceux qui étaient disciples pendant la vie de Jésus à la connaissance de tous, qui accompagnaient Jésus sans discontinuer, voici que les disciples, eux, ils se sont enfuis et ils se cachent. Ils se cachent. Et c'est un disciple en secret qui, lui, se met en pleine lumière. La peur avait saisi les disciples de la vie de Jésus, alors que deux disciples précédemment cachés se révèlent. Je mets Nicodème aux côtés de Joseph d'Arimathée. Deux disciples cachés se révèlent. Et on peut dire ceci, tout cela n'était pas, bien entendu, étranger au plan de Dieu. Et là, le Saint-Esprit suppléait la défaillance des disciples en éveillant une foi chez Nicodème et chez Joseph d'Arimathée, une foi qui s'avoue, et qui s'avoue chez des disciples clandestins. Le Saint-Esprit, donc, devant cette défaillance, la fuite des disciples, compagnons de Jésus pendant son ministère, eh bien, alors le Saint-Esprit supplée. Et puis deux disciples qui étaient en secret, qui se cachaient clandestins, ceux-là paraissent à la lumière. Et on peut dire, voilà encore quelque chose qui est surprenant, c'est que les apôtres, les disciples de Jésus n'ont pas la foi de l'Église à ce moment-là. Mais Joseph d'Arimathée et Nicodème ont la foi de l'Église. Ils ont la foi de l'Église. La foi en un Jésus, un Seigneur crucifié. Et cela nous rappelle ce que nous allons relire dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 et verset 24. Ou verset 23. Jésus leur répondit à André et Philippe. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous avons déjà mis en valeur ce principe, hein. On ne pourra sauver que ce qu'on accepte de perdre. Bien, mais là donc, toujours en rapport avec ce principe, on ne pourra sauver que ce qu'on accepte de perdre, notons-le bien, nous chrétiens. Eh bien, en rapport avec cela, nous voyons que le Seigneur Jésus, parlant de son œuvre, de lui-même, nous dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il faut qu'il meure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a donc là une action surnaturelle. Elle est là, elle part de là, l'action surnaturelle. Une grande action surnaturelle. La mort de Jésus, donc, porte un fruit extraordinaire, puisque c'est cette mort qui porte beaucoup de fruits, c'est-à-dire qui va avoir pour conséquence énorme et conséquence éternelle, disons, mais en tout cas une conséquence qui va se voir dans la suite des siècles, eh bien, le Seigneur étant mort, et cette mort du Seigneur produit un fruit, c'est-à-dire permet à des hommes, des femmes, en grand nombre, de devenir de vrais disciples du Seigneur et de recevoir la grâce de Dieu. Et Joseph d'Arimathée est atteint par ce grand principe. Voilà un homme, clandestin, qui est atteint par ce grand principe surnaturel. Il faut que nous notions bien cela. Il y a donc là quelque chose de surnaturel. Et il va immoler sa réputation pour un Christ mort. Nous sommes là encore devant quelque chose d'humainement incompréhensible, quelque chose devant quoi le raisonnement humain achoppe. Il va immoler sa réputation pour un Christ qui est mort. Mais son cœur lui parle de vie et d'espérance, et il prend place parmi les premiers témoins de Jésus. Le Seigneur Jésus n'avait pas été sans, nous avons relu là le passage de Jean 12 qui nous montre, qui nous rappelle une déclaration formelle de Jésus selon laquelle il faut que, tout comme le grain de blé qui meurt en terre, il faut qu'il meure, lui, qu'il soit mis en terre pour que apparaisse le grand fruit qu'il est venu apporter à la terre, le fruit d'hommes et d'âmes sauvées, c'est-à-dire, en somme, la constitution d'une humanité nouvelle. Donc, le grain est en terre. Mais Jésus avait aussi exprimé la chose dans son chant. Il avait chanté, vous savez, le Seigneur Jésus. Il avait chanté, oh, ce n'est pas, les évangiles ne mettent pas la chose tellement en évidence, mais nous savons qu'il avait chanté, et notamment, il avait chanté ce que je vais vous relire dans le psaume 118, au verset 17. C'est un psaume qui appartenait au grand Hallel, le grand Hallel qui était chanté en Israël. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, savons comment, Le plan du Père comprenait la mort du Seigneur. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est-à-dire, il ne m'a pas livré à la mort éternelle, comme le dit Hébreux 5. Il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Ça c'est... Jésus a chanté ça, et c'était donc en étroite relation avec sa mission. Voici la porte de l'Éternel, n'a-t-il pas dit aussi, je suis la porte des brebis. Ainsi donc, Jésus a bien lui-même mis l'accent sur le fait que sa mort allait engendrer des âmes nombreuses, en nombre aussi grand que les grains de sable du bord de la mer. Donc sa mort allait engendrer à la vie beaucoup d'âmes, mais il fallait que lui, il passe par la mort. Alors l'histoire de Joseph d'Arimathée montre très bien la puissance que déploie la mort de Jésus. Jésus l'avait dit, mais nous voyons là, l'exemple que nous fournit les attitudes successives de Joseph d'Arimathée, que la mort de Jésus déploie une puissance. Il y a eu d'autres témoins de la mort de Jésus que Joseph d'Arimathée. Il y a eu, par exemple, Luc 23, Luc chapitre 23, et verset 35, nous lisons au verset 35. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver, ils dirent, Seigneur, voici deux épées, et cela suffit. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifié, mais seulement j'ai eu tort de vous reprendre le texte là, c'est au chapitre 23 que je voulais lire exactement. Enfin, cette lecture n'est pas inutile, je me suis trompé de chapitre. Alors c'est au chapitre suivant et au verset 35 que j'avais l'intention de lire. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre, le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu ?» Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà donc aussi un témoin de la mort de Jésus, le second brigand. Il y en a un, évidemment, lui qui ne voit rien, qui ne comprend rien, qui reste dans sa révolte, mais le second, lui, voit et comprend. Au milieu de la moquerie, au milieu de la haine, de la provocation, de l'impiété, ce brigand se sent transporté par la foi et il discerne le Fils de Dieu. C'est vite fait. Vous voyez, il discerne le Fils de Dieu. C'est donc lui aussi un fruit de cette puissance surnaturelle que produit la mort de Jésus. Puis, au chapitre 23, toujours de Luc, et au verset 47, nous pouvons lire ceci. « Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Voilà encore un témoin de la mort, un témoin qui se révèle à la mort de Jésus. Jésus vient de mourir et le centenier, vous voyez, est touché, profondément touché, un fruit de la mort de Jésus. Certainement, cet homme était juste et il glorifiait Dieu. Lui aussi discerne le Fils de Dieu, et en somme, voici que la vue du cœur s'allume chez lui. Et nous pourrions maintenant lire dans Marc 15 et verset 39, Marc 15, verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la force, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé, qui le suivaient et le servaient. Lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Mais là, nous voyons qu'il y a réellement une différence entre l'attitude qui nous est signalée du centenier. Assurément, cet homme était fils de Dieu, vous voyez, il discerne le Fils de Dieu. Et puis, les femmes qui regardaient de loin, peut-être de trop loin, regardaient de loin, et c'était ces femmes qui l'avaient suivi au cours de son ministère, de ses marches, et qui l'avaient servi de leur bien même, mais l'Évangile ne nous dit rien quant à l'attitude de ces femmes devant la mort. C'est quelque chose quand même qui nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Et nous fait réfléchir dans ce sens. La mort de Jésus, en somme, produit un fruit là où il faut, là où l'Esprit le veut. Ça n'est pas peut-être partout, mais c'est là où l'Esprit le veut. Et puis, nous avons aussi l'attitude de la foule, à laquelle nous n'avons peut-être pas suffisamment prêté attention dans Luc 23, c'est au verset 48, l'attitude de la foule. Le centenier, nous avons vu tout à l'heure au verset 47, l'attitude du centenier qui glorifie Dieu et qui discerne que cet homme était juste et qu'il était le Fils de Dieu. 48. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Ah, ça c'est une attitude qui manifeste que déjà, dans cette foule, il y a des gens dont le cœur est touché par la mort de Jésus. Ils se frappent la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Vous voyez l'attitude des femmes, là, n'est-ce pas, n'est pas vraiment à l'égal de celle des témoins que l'on sent être touchés par une grâce en raison de la mort du crucifié. Moi, ça m'a toujours étonné, ça. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné. En somme, on peut dire que ceux qui étaient ouvertement ses disciples pendant le cours de son ministère, eh bien, à sa mort, ils ne se révèlent pas vraiment comme de bons disciples. Et c'est Joseph d'Arimathée, et c'est le centenier, et c'est le brigand, qui, eux, au contraire, manifestent la transformation dont ils sont l'objet par le fait d'une grâce divine. Donc, il y a dans la foule des gens qui éprouvent un sentiment de culpabilité et un besoin de repentance. Ils se frappent la poitrine. Un besoin de repentance. La mort de Jésus amène donc à ce besoin de repentance. Et cette circonstance que nous venons de lire, là, au verset 48 et 49 du chapitre 23 de Luc, cette circonstance annonce déjà de loin la repentance et la conversion de beaucoup de gens. Il y aura des pharisiens qui se convertiront. Annonce aussi de loin la repentance et la conversion finale du peuple juif. Et que le peuple juif va se convertir bientôt peut-être, comme nous l'apprend le chapitre 12 de Zacharie. Alors, revenons sur le crucifiement de Jésus et sur sa mort. Il faut absolument que nous recevions en nous la force que déploie la croix. Quand nous parlons de la croix, n'est-ce pas, il faut bien parler de la mort du juste, de la mort de celui que Dieu a envoyé comme victime propitiatoire, selon son grand amour. Alors, il faut que nous considérions la force que déploie la croix du Seigneur Jésus. Et comme Paul, nous pouvons arriver à ce qu'il nous dit dans le livre, l'épître aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ ». J'ai été crucifié avec Christ. L'apôtre Paul ne parle pas là de quelque chose de littéral, mais il a été crucifié, c'est-à-dire le crucifiement du Seigneur Jésus s'est reporté en moi en toutes ses conséquences. Je porte, même dira-t-il, les stigmates, non pas toujours, n'est-ce pas, à prendre dans un sens littéral, enfin, je ne suis pas de tomber dans la superstition catholique. Ce ne sont pas des stigmates visibles dans les mains, mais il veut dire qu'il porte toutes les conséquences, toutes les marques, et même, il ajoute aux souffrances de Christ pour l'Église. Donc, il peut dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et aussi la mort. Je disais que la mort du Seigneur Jésus a pour nous des conséquences qui ne s'arrêtent pas au moment de la conversion, mais pendant toute notre vie chrétienne, nous avons besoin d'être toujours porteurs des conséquences de la mort de Jésus. Je voudrais voir cela dans le chapitre 4 de 2 Corinthiens, chapitre 4 de 2 Corinthiens, au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Voyez-vous, quelle grande puissance ? La grande puissance qui découle de la mort de Jésus, du crucifiement de Jésus. J'entends, on entend beaucoup parler de la croix, c'est bien, mais il faut que nous sachions que quand nous disons la croix, nous disons la mort du Seigneur. Paul le dit dans 1 Corinthiens, nous annonçons au moment de la scène, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous l'annonçons. La mort du Seigneur, donc, est génératrice d'une grâce, de grâce divine qui ne tarissent pas. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Il est impossible que nous disions « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », comme l'a dit Paul, si auparavant nous ne pouvons pas dire aussi « j'ai été crucifié avec Christ ». Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, porter la mort de Jésus pour avoir aussi la puissance de sa vie. On ne peut pas dissocier, donc, la puissance qui découle de la mort de Jésus si nous voulons aussi la puissance de sa vie. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Là, l'apôtre nous parle essentiellement des persécutions qu'il a à supporter, mais ces persécutions, pour lui, sont des stigmates, sont des moyens par lesquels il lui est rappelé qu'il est crucifié avec Jésus, et que la mort de Jésus est en lui pour que la vie de Jésus soit aussi en lui. Quelqu'un, un chrétien, chez qui la mort de Jésus ne se manifeste pas constamment en lui, la mort, avec toutes ses conséquences, et notamment le besoin d'un cœur pur, le besoin de confesser son péché, eh bien celui-là ne peut pas dire que vraiment la vie est en lui. Il faut que la mort de Jésus soit en nous pour que la vie puisse également s'y manifester. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul nous dira aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Il faut que ce soit cela. Ce n'est pas un jugement en passant. Non. Nous prêchons Christ crucifié, on peut dire, il faut que ce soit un scandale pour les Juifs. Et que ce soit une folie pour les païens, les incrédules, mais puissance de Dieu. Christ crucifié, puissance de Dieu, et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, vous voyez, à la mort de Jésus, au crucifixion de Jésus, ce n'est pas c'est un fait historique, mais un fait historique qui, actuellement, a mis dans la main de Dieu la disposition d'une source énorme de grâce, de bénédiction. Le Seigneur nous accorde des bénédictions en grand nombre jusque dans les célestes, dans les lieux célestes. Tout cela vient donc de la puissance qui s'attache au crucifixion de Jésus. Jésus-Christ, donc, a été fait pour nous dans le passage que nous venons de consulter au verset 30, le chapitre 1er de 1 Corinthiens, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et pourquoi sagesse, justice, sanctification et rédemption? Ce sont là les grandes conséquences, les conséquences qui découlent du crucifixion de Jésus. Alors, la conclusion sera celle-ci. Il faut que nous saisissions en Jésus-Christ et en sa mort et en sa victoire la force de vivre à la satisfaction de Dieu, de vivre d'une manière digne de la vocation qui nous a été accordée, la force en somme de ne plus pécher mais de servir Dieu d'une façon positive, et aussi d'être sanctifié, de recevoir la sanctification du Seigneur. Et pour cela, il faut que nous pensions que c'est le crucifixion, la mort de Jésus, qui engendre cette puissance, cette grande puissance descendant du ciel, et qui nous parvient sous forme de bénédiction et de grâce sans nombre. Amen.